Notre invité dans votre édition de la rédaction ce jeudi, Federico Santopinto, chercheur au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, pour revenir aujourd'hui sur le sommet de l'OTAN qui vient donc de s'achever à Londres. Federico Santopinto, bonjour.
Bonjour.
Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'OTAN vient de fêter à cette occasion ses 70 ans d'existence. Tout d'abord, d'une manière générale, si vous voulez bien, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'OTAN s'essouffle un petit peu ?
Oui, on peut dire que l'OTAN s'essouffle et on peut dire, comme l'a dit Macron, peut-être en exagérant dans les termes, que l'OTAN est malade. Elle n'est sans doute pas en mort cérébrale, mais c'est une vieille dame qui n'a peut-être plus toute sa tête parce qu'elle doit réinventer un peu son rôle et sans doute faire une réflexion sur ses objectifs de fond et même sur l'essence de son existence.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire justement aujourd'hui pour redonner à l'OTAN un peu plus de vigueur ?
Il faudrait déjà que les États membres de l'OTAN se coordonnent un peu mieux lorsqu'ils font face à des défis sécuritaires, comme par exemple en Syrie, pour ne citer qu'un exemple. Il faudrait aussi peut-être éviter que les chefs d'État et de gouvernement ne se critiquent ouvertement de manière aussi forte, parce que ça donne une image d'une alliance faible ou quasiment de pas alliance, ce qui réjouit évidemment les adversaires de cette alliance,
oui,
comme la Russie. Parce que...
on y reviendra effectivement, oui, à la veille du sommet. Il y a eu pas mal de joutes verbales assez acerbes.
Oui, mais elles sont très significatives parce que si une alliance se montre faible ou montre que les membres de cette alliance ne sont pas de fait alliés parce qu'ils ne se comportent pas comme des alliés, l'alliance en soi n'existe plus. Mmh. Et si les adversaires considèrent que l'alliance n'existe plus, ils vont essayer d'en profiter. Une alliance militaire se base surtout sur la dissuasion et sur sa crédibilité. Si on remet en cause sa crédibilité, on remet en cause l'essence même de cette alliance.
Alors, au sujet de la Turquie, est-ce qu'on peut parler, disons, d'électron libre au sein de l'alliance ?
Oui, on peut parler d'un électron libre. Un pays qui s'éloigne de plus en plus de ses partenaires, pas seulement à cause de la crise syrienne et de l'invasion du nord de la Syrie de la part de la Turquie, mais aussi dans le cadre d'autres choix que Erdogan a fait tout récemment, notamment l'achat de ses systèmes missiles anti-aériens et anti-missiles russes S-400, qui sont des systèmes qui ont été conçus pour abattre des missiles et des avions de l'OTAN. C'est quand même curieux qu'un pays membre d'une alliance achète des systèmes qui ont été conçus pour abattre les avions de cette même alliance.
Alors le président français a été très clair en matière de définition de terrorisme et qu'il n'y avait pas de consensus possible avec la Turquie.
Effectivement, parce que la Turquie a un problème avec, des groupes rebelles kurdes qu'elle considère terroristes et qui ont aidé les pays européens et occidentaux à combattre le terrorisme en Syrie. Donc cela, évidemment, crée un sérieux problème. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Mmh. Et pourtant, la définition de terrorisme, c'est définir un adversaire de l'OTAN. Et étant donné que l'OTAN, je le répète, est une alliance militaire et qu'une alliance militaire n'a de sens que si elle a un ennemi, si on n'arrive pas à trouver une définition commune de cet ennemi, on a un sérieux problème.
Alors, est-ce qu'on peut parler de paradoxe, puisque quelque part, la Turquie est une tête de pont des États-Unis sur plusieurs théâtres d'opération, mais en même temps, la Turquie qui est proche de la Russie?
Oui, c'est un paradoxe parce que l'alliance, le principal adversaire de l'alliance théoriquement reste la Russie. On l'a vu notamment avec la crise en Ukraine, avec la crise en Géorgie, et le fait qu'il y ait ce rapprochement avec le principal adversaire de l'alliance de la part de la Turquie est un problème, et surtout le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la Turquie achète des armes à celui qui est l'adversaire principal de l'alliance, c'est un contresens, c'est un paradoxe, comme vous dites, effectivement.
Alors, le malheur fait le bonheur des autres, ou je dirais plutôt les divisions des uns renforcent les autres. On pense bien sûr à la Russie.
Et tout à fait, la Russie a profité des faiblesses et des contradictions de l'alliance. Elle a la main en Syrie. Clairement, elle pourrait prendre la main en Libye aussi, notamment. Et surtout, elle comprend que l'alliance n'a pas de cohésion, ce qui lui permet en général d'avoir une politique plus agressive, pas forcément une politique militaire, hein, mais même diplomatique, être plus offensive sur un front diplomatique. Donc, quand on est faible en politique internationale, on en paye toujours les conséquences. Quand on montre de la faiblesse, quand on étale de la faiblesse, on aura toujours une réaction de l'autre côté négative.
Alors, revenons aux caisses de l'OTAN. On parle gros sous à présent, on sait que les États-Unis sont les principaux bailleurs de fonds. La réunion de Londres a confirmé, d'après vous, la dépendance militaire de l'Europe envers les États-Unis.
Oui, les Européens dépendent militairement des États-Unis, c'est clair. Ceci dit, le discours que fait Donald Trump, selon lequel les États-Unis payent 70% du budget de l'OTAN, c'est un discours incorrect. Les États-Unis ont un budget militaire énorme, mais la plupart des sommes qui sont prévues dans ce budget militaire ne sont pas allouées à l'OTAN et à la défense de l'Europe. Par exemple, les États-Unis ont plus de soldats dans la zone Pacifique, au Japon, en Corée, qu'en Europe. Donc beaucoup d'activités militaires et de dépenses militaires des États-Unis ne sont pas pour l'OTAN ni pour l'Europe. Ceci dit, il reste le fait que les capacités militaires des États-Unis restent beaucoup plus importantes que celles européennes et que face à une crise majeure, les Européens sont dépendants des États-Unis pour leur défense. Ça, c'est évident.
Un mot à présent d'une défense européenne. L'idée d'une défense européenne, disons autonome, est-ce que ça ressemble toujours à un mirage ?
Je pense que ça ressemble à un mirage à court terme, mais peut-être pas à long terme. Et le meilleur allié de cette défense européenne est clairement Donald Trump. Parce qu'avec ses discours et ses tweets agressifs, Donald Trump a semé le doute sur la crédibilité des États-Unis et sur le fait qu'ils soient prêts à défendre l'Europe. Et ça, il a semé le doute surtout en Allemagne, qui est quand même un des pays traditionnellement les plus atlantistes. Et le fait que les États-Unis se montrent si hostiles vis-à-vis des Européens et même offensifs à certains égards pousse les Allemands notamment, et pas seulement les Allemands, à prendre conscience du fait que l'Europe doit s'unir pour pouvoir se défendre et ne pas forcément compter sur les États-Unis. Donc, à court terme, c'est une utopie, mais je voudrais dire presque que si Donald Trump ou les Américains continuent comme ça, ça pourrait ne pas l'être, parce que quand même des progrès au cours des dernières années en matière de défense européenne ont été faits.
Alors, je vais quand même à présent terminer sur une déclaration d'un général français, le général Vincent Desportes. Je vais lire ces quelques lignes et je voudrais avoir votre avis juste après. Il reconnaît que le monde de l'OTAN est obsolète. Nous n'avons plus que quelques années pour trouver les voies européennes de l'autonomie stratégique, parce que les Américains ne reviendront pas, comme ils l'avaient fait à l'occasion des deux dernières guerres mondiales. Ils n'ont plus les mêmes intérêts humains ou économiques, votre avis ?
Je pense que c'est exagéré. Je pense que l'OTAN est en crise, mais elle existe toujours. Et que les Américains, pour l'instant, sont toujours présents. Ils ont même un peu renforcé récemment leur présence en Europe. Mais je crois néanmoins que les Européens doivent absolument développer leur autonomie stratégique, c'est-à-dire leur capacité d'agir sans les Américains, notamment aussi pour renforcer l'OTAN, parce que Trump se plaint du fait que les Européens ne partagent pas le fardeau sécuritaire. Eh bien, ce serait prouver que les Européens sont en mesure de faire plus en matière de sécurité, de ne pas dépendre des États-Unis, et ça nous permettrait d'avoir une relation plus équilibrée entre alliés avec les États-Unis.
Voilà, c'était donc la conclusion de Federico Santopinto. Je rappelle que vous êtes chercheur au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Et c'est ainsi que l'on referme cette édition de la rédaction. Excellente journée.